Voilà, merci Seigneur pour ces bons moments dans sa présence. Merci à votre pasteur pour l'invitation. Voilà, comme Gérard le disait, nous sommes amis depuis de longues années. Mais c'est une amitié qui a commencé dans le spirituel. Et bien sûr, humainement, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, nous nous retrouvons dans ce comité Esdras. Non pas que nous ayons cherché à... C'est notre façon de prêcher la parole, de diriger l'Église qui nous a mis en marge de ce mouvement qui a dérivé petit à petit. Mais nous prions que le Seigneur puisse agir, qu'il puisse se manifester, que tous ses serviteurs reviennent au pied de la croix, que nous tous nous revenions au pied de la croix et que nous puissions lui obéir, que nous puissions nous courber devant lui, que nous puissions le servir, non seulement de tout notre cœur, mais selon sa volonté, selon sa parole. Nous vivons des temps particuliers qui sont ces temps de la fin. Nous sommes convaincus et d'année en année, je dirais même presque de mois en mois, ça s'accélère. Moi, ces 5 dernières années, j'ai l'impression que ça se précipite de plus en plus. Le Seigneur revient et nous l'entendons depuis des années, mais quand on regarde au tableau de bord, quand on regarde au monde ce qui se passe, quand on regarde à Israël ce qui se passe et quand on regarde à l'Église ce qui se passe, on peut dire qu'il est à la porte, il est là, il revient. Et il veut préparer son Église. Nous l'avons entendu, une prophétie, là, il prépare son Église afin qu'il vienne chercher cette Église sans tache ni ride, cette Église qui se sera préparée, que lui aura préparée. Il vient la chercher, il vient nous chercher, bientôt. Et nous devons nous préparer. C'est pas, on se laisse pas vivre, on vit pas les choses comme ça, et puis on se dit, ben, Jésus va revenir. L'Écriture nous donne des précisions, des exhortations. Elle nous montre ce que nous devons faire pour nous préparer. Et nous ne pouvons pas faire fi de ce qui est écrit, mais nous devons nous y préparer sérieusement. C'est le plus important dans notre vie. Plus même que notre profession, que notre... C'est important, mais se préparer, c'est le plus important, parce que ça concerne notre éternité. Et le Seigneur, la parole nous dit qu'il va commencer le jugement par la maison de Dieu. Il a commencé, ça fait déjà bien des moments qu'il a commencé, par la maison de Dieu. Il ne veut pas condamner son Église, mais il veut que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer de voie. J'ai prêché pendant plusieurs dimanches sur ce verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, son pays, je guérirai. » Notre pays en a besoin. Notre pays a besoin. Nous en parlions, l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Il faut avoir un regard lucide, honnête, vrai, sincère, à partir des Écritures, regardez l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin de revenir. L'Église n'est pas appelée à se moderniser, mais l'Église est appelée à revenir au modèle qui est inscrit dans la parole. L'Église n'a pas besoin de se conformer au monde, mais c'est le monde qui doit être sauvé par l'Église, par la parole, par le Christ. Cherchons pas à attirer des gens par ce que nous pouvons faire, mais c'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit avec la parole de Dieu qui convainc les cœurs. Donc l'Église de Jésus-Christ doit revenir dans les anciens sentiers. C'est pas compliqué, revenir à la parole, revenir à la croix, revenir. J'aimerais lire, sinon je vais parler, ça envahit nos cœurs, nos pensées, c'est... On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset bien connu, verset 31, Actes 9, 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Et dans Acte des Apôtres, dans Éphésiens, verset que j'aime beaucoup aussi, Éphésiens 5, 18, bien sûr il faut lire tout le contexte, mais Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » On va s'arrêter sur ce « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Tout ce que nous pouvons produire de bon, tout ce que nous pouvons produire de durable, tout ce que nous pouvons produire d'efficace, nous vient de Dieu. C'est lui, par son esprit. C'est ce texte dans Ézéchiel, au chapitre 37, cette prophétie où il est question de cette armée, de cette vallée d'ossements, cette armée où et Dieu dit au prophète de prophétiser sur ses eaux. Et nous voyons qu'il y a eu la chair, les nerfs, la peau, il y a tout eu, il était debout. De loin, on aurait pensé à une armée qui est là, vivante, mais il lui manquait l'essentiel. Il dit, prophétise, dis à l'esprit, viens des quatre vents. Et cette armée nombreuse s'est mise en mouvement. C'est l'Église. L'Église animée par le Saint-Esprit. L'Église poussée par le Saint-Esprit. Dieu veut faire de grandes choses. Et j'en suis vraiment convaincu, si nous revenons, si nous nous courbons, si nous obéissons, si nous revenons à ce que Dieu nous demande, non pas ce que nous pensons de la vie chrétienne, de l'Église, de ce qu'elle, mais ce que Dieu dit dans sa parole, c'est illimité ce qu'il peut faire. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. C'est un besoin crucial. Et Dieu ne nous a pas laissés dans le flou, dans le brouillard, en ce qui concerne être rempli du Saint-Esprit. On a des idées parfois de ce que ça signifie être rempli du Saint-Esprit. On confond des fois, ce n'est pas une visitation, ce n'est pas un attouchement du Saint-Esprit, même plus qu'une onction, même baptême du Saint-Esprit, mais c'est plus que cela, être rempli du Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, Dieu nous parle de continuité, jour après jour. Il agit jour après jour. Ce n'est pas une expérience ponctuelle. Voilà, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à telle date. Moi, c'était en janvier 85. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est une expérience du passé. Mais Dieu nous dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez. Et ça, c'est le combat de chacun. Notre combat, ce n'est pas les choses extérieures, les gens, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est notre combat. Parce que sinon, nous ne pouvons pas marcher d'une manière digne du Seigneur, de l'Évangile. C'est l'Esprit qui nous anime, c'est l'Esprit qui nous conduit, c'est l'Esprit qui nous donne de discerner, c'est l'Esprit qui nous donne de prier avec puissance, avec autorité. C'est l'Esprit. Ça nous vient de Dieu, ça nous vient de lui, la vie vient de lui. La parole est esprit et vie. Alors, quelques exemples pour... Dieu est précis. Il ne nous laisse, comme je l'ai dit, il ne nous laisse pas au gré des vents, au gré de nos pensées, mais ce qu'il nous demande, il nous donne des exemples dans la Bible. Vous voyez les apôtres, les disciples, Jésus les a amenés petit à petit à être convaincus. Il les a amenés au point, à un point, à être convaincus et même désespérés d'eux-mêmes. Vous voyez, l'exemple de Pierre, par exemple. Prenez Pierre, il a amené chaque fois, vous voyez dans les évangiles, Pierre était à côté. Mais il l'a amené jusqu'à manifester son propre besoin. Pierre était toujours emporté, il était toujours le premier, il dégainait très vite. Mais il était souvent à côté. Même à un moment, vous connaissez ce passage dans Matthieu chapitre 16 où il dit « Seigneur, ça ne t'arrivera pas ça, la croix, vous vous rendez compte ?» Il dit mais tu as des pensées humaines, c'est même diabolique. » Et il les a amenés jusque à leur désespoir d'eux-mêmes. Il faut y arriver. Parce que sinon on essaiera toujours de faire toujours de produire, toujours de se débrouiller, toujours de vivre par nous-mêmes, avec nos pensées, nos résolutions. Et on s'aperçoit que c'est l'échec. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il y a des églises où Dieu fait des reproches. Ce n'était pas 200 ans après. Par exemple, pour l'église d'Éphèse, c'était entre 20 et 25 ans après. Voyons l'église d'Éphèse, une église florissante sur le plan spirituel. Une église, d'après ce que Paul leur dit, c'est une église qui a une compréhension spirituelle et les prières qu'il fait pour cette église. Mais nous voyons, 25 ans après, ils se sont éloignés. Ils ont perdu le cap. Ils vivaient, ils faisaient des œuvres, ça fonctionnait. Mais Jésus n'y était plus. Et même dans l'église de Laodicée, Jésus était même à la porte. Mais si on avait demandé à ces chrétiens, est-ce que ça va, est-ce que ça tourne? Ah ben ça va très bien, ça va très bien. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, malheureux, tu ne sais pas. Mes frères, il faut que dans ces temps de la fin, il faut que nous nous laissions interpeller par le Saint-Esprit et nous laisser amener jusqu'à ce lieu où nous nous trouvons seuls avec Dieu et laisser l'Esprit radiographier nos cœurs, non pas pour nous accabler, mais pour nous bénir, pour que la vie jaillisse de nos vies. Il faut que dans nos réunions, il y ait la vie de Dieu qui se manifeste. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Aujourd'hui, on peut faire des affiches, certaines, avec soirée de ceci, mais eux ne savaient pas. Eux, ils prêchaient le Christ. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, et dans les réunions, se passaient des choses dont on peut voir dans les Actes, des miracles, des délivrances, de la persécution aussi, avec. Mais c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'il y avait de la persécution. Et si aujourd'hui on est tranquille, peut-être il faut se poser quelques questions. Parce que rempli du Saint-Esprit, on dérange le diable, on dérange le monde, on dérange, même sans rien faire, simplement en étant rempli du Saint-Esprit. Mais par contre, on est des éléments pour le royaume de Dieu, efficaces, qu'il faut avancer les choses. Voilà, donc ça fait vibrer nos cœurs, ça. Moi je me dis, je sens plus que jamais qu'on est sur la bonne voie, on est en train de préparer quelque chose et on aurait dû toujours le vivre, ça. Ce qu'on est en train de préparer, non pas seulement sur le plan juridique, tout cela, c'est sur le plan spirituel. On va vivre et revenir au modèle de la parole de Dieu, afin que Dieu, lui, puisse se glorifier et se manifester au milieu de son peuple. Alors, rempli du Saint-Esprit, quand on suit les apôtres, les disciples, dans des évangiles jusque dans les Actes, il s'est passé quelque chose le jour de la Pentecôte de formidable. Ils ont été là, ils persévéraient dans la prière. Je ne sais pas, ils sont restés 10 jours, je crois, dans la prière. Moi, je crois qu'ils ont dû s'humilier, se repentir. Ils ont dû dire, on a fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas servi à grand-chose. On était imbu de notre personne, on a essayé de faire, mais maintenant, Seigneur, agis. Et voilà, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur chacun d'eux, ils étaient environ 120, et le Saint-Esprit, et ils ont des langues de feu, etc., ça c'est tout l'environnement, mais ce qui s'est passé, c'est vraiment formidable parce que leur vie a été métamorphosée. Et nos vies ont besoin d'être métamorphosées. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, et je vais un petit peu suivre le plan, mais une vie remplie de l'Esprit nous donne une parole claire, un message précis, nous donne un message compréhensible, un message qui vient du cœur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Le message, il est clair, audible. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 33, Pierre, quand il va arriver chez ces personnes qui l'attendaient, au verset 33, il est dit « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Et au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. » Pierre, rempli du Saint-Esprit, va communiquer un message clair sur tous ceux qui écoutaient, et ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, voilà, dans Actes 2, 4, il nous est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et dans Actes 2, au verset 11, il les dit « Comment les entendons-nous dans notre propre langue parler des merveilles de Dieu ?» Ça, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne de glorifier Jésus. Il nous donne d'élever Dieu. Il nous donne des paroles qui viennent du cœur même de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à parler. Et les autres qui écoutaient, ils les ont compris. Ils ont compris ces langues. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue, remplie du Saint-Esprit ? On est conduit, on est dirigé vers des personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Dans notre témoignage, dans la prédication, on a besoin de ces choses surnaturelles. C'est le Saint-Esprit leur donné d'exalter Jésus, les merveilles de Dieu. Voilà, quelles sont nos paroles aussi ? On l'a entendu dans ces chants, des paroles de rejeter ce qui est mal. Qu'est-ce qui sort de notre bouche ? On peut déjà vérifier là, simplement, si c'est l'Esprit qui conduit nos vies, si c'est l'Esprit qui nous remplit. Que sort-il de nos bouches ? Est-ce qu'il sort des paroles de grâce assaisonnées de sel ? Est-ce que nous sommes un moyen de bénédiction pour nos familles, pour notre entourage, pour nos collègues de travail, à l'école, à l'université ? Est-ce que nous sommes des moyens de bénédiction ? Ou est-ce qu'on parle le même langage qu'eux ? Ou bien parlons-nous un autre langage dont ils ont besoin ? Dieu veut leur parler. Dieu s'adresse à ceux qui sont autour de nous et nous devons être un moyen de bénédiction. Et reconnaissons-le, humainement, souvent, ce sont nos faiblesses qui se manifestent, ce sont notre légèreté, parfois, qui se manifeste dans le langage. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de lui, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir être des moyens de bénédiction, des témoins efficaces entre les mains de Dieu. Vous savez, l'Église du 1er siècle, c'était très simple. Il y avait la prédication, la prière, l'adoration. Dans Actes 2, verset 42, ils se maintenaient ensemble dans la communion, dans la prière. Mais comment évangélisaient-ils ? Ben, chacun était un témoin. Et même quand il y a eu la persécution à Jérusalem, il nous est dit qu'ils ont été dispersés. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, nous voyons qu'après le meurtre d'Étienne, ils ont pleuré, bien sûr, mais ils se sont dispersés, ils allaient de lieu en lieu, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils annonçaient la parole. Mais c'est beau, au lieu de gémir, de se plaindre, de dire c'est injuste, c'est pas bien, on a donné nos vies au Seigneur, et puis on souffre, et puis il y a la persécution. Mais au lieu de cela, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ils allaient de lieu en lieu, et ils annonçaient la parole. Voilà l'Église. Qui gagne les âmes ? Chacun d'entre nous. Qui témoigne ? Chacun. Rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement que de parler de celui qui nous a sauvés, de parler de celui qui nous a libérés. On ne peut pas faire autrement. Rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Je me souviens au début de ma conversion, bon, vivez la nuit, la drogue, l'alcool, toutes ces choses-là. Quand j'ai rencontré Jésus, comme je le disais hier soir, ça a été quelque chose de puissant dans ce que j'ai vécu tout seul dans ma chambre. J'ai rencontré le Seigneur et je ne pouvais plus me relever, je ne voulais plus, je ne pouvais plus, j'étais dans sa présence. et il était en train de laver mon cœur, de me pardonner, de me... J'avais pas pleuré souvent, mais là... Et quand je me suis relevé, j'ai vu les choses différemment. Les gens différemment. Et je le dis souvent, même la nature, que je ne voyais jamais, j'ai commencé à voir différemment. Qu'est-ce que... J'ai témoigné à mon meilleur ami, il s'est converti. À nous deux, on a témoigné à d'autres, ils se sont convertis. Mais qu'est-ce qui animait notre cœur? Eh bien, que d'autres rencontrent Jésus, que d'autres fassent l'expérience, le pardon, une vie nouvelle. Ça, c'est pas fait, on n'a pas décidé, on n'a pas fait un plan de qu'est-ce qu'on va faire. On était poussé par l'Esprit, on a témoigné, prié pour les malades. Je n'étais pas dans le ministère, hein, mais j'aimerais revivre ce qu'on a vécu au début. On priait simplement, les malades étaient guéris. Mais pour nous, qui étions jeunes convertis, on avait 3 mois, 4 mois de conversion, c'était normal, c'était écrit. Mais les chrétiens, disaient, mais c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Eux étaient étonnés, parce qu'ils étaient tombés dans une religiosité. Ils disent, ça fait 20 ans qu'on est là, et jamais il ne s'est rien passé. Petite annexe, d'ailleurs c'est Pasteur Lafayette qui a ouvert en 48, Pertuis. Il me l'avait dit une fois. Et c'est extraordinaire ce qui se passait, mais pour nous c'était normal parce que c'était écrit. Si on avait pu garder cela tout le temps. Bon, je passe, mais il y a eu environ 120 conversions dans l'année qui a suivi, principalement des jeunes. Mais de tout milieu. Même un jeune s'est converti dans sa prison, dans la prison. C'est beau, c'est les actes, c'est l'évangile, c'est ce que nous voulons vivre, quelque chose de spontané, quelque chose de... Voilà, c'est notre vie, ça doit être notre vie. On s'attend au Seigneur, dans les réunions de prière, on s'attend au Seigneur, afin qu'il puisse se manifester avec puissance, non pas dire, voilà, je vais à la réunion, on sait déjà comment ça va se dérouler, mais il faut que nous venions sans savoir comment ça va se dérouler, que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous. Ça bouscule, hein, mais on va y venir, ça va nous bousculer, nous, d'abord. Un langage de Dieu, le langage du ciel, compréhensible, clair. Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a prêché Jésus, crucifié, ressuscité, et Pierre rempli du Saint-Esprit. Au acte 2, 37, vous connaissez, quand ils ont entendu ce message, ils se sont sentis concernés. Il dit, homme frère, que ferons-nous maintenant? Ça nous concerne, on est touchés, on a compris, c'est nous qui avons crucifié Jésus. Que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était quelque chose qui était automatique, entre guillemets, ça suivait l'expérience. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, il y a eu environ 3000 âmes qui se sont converties. Message clair qui a suscité une réponse claire, repentez-vous. Il me semble que ce message aujourd'hui n'est plus très clair. Le message que nous véhiculons, que ce soit de la chair, je parle en général, mais que ce soit aussi de nos vies, le message n'est plus aussi clair qu'il devrait être. Pourtant, la parole est là, nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. Il y a tellement de choses qui viennent dénaturer ce qui devrait se trouver. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire des choses avec le plus petit au milieu de nous. Avec le plus petit, rempli du Saint-Esprit, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'il est un Dieu grand, il est un Dieu puissant, il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Rempli du Saint-Esprit nous donne de l'assurance, des convictions, de la sérénité. Pierre, quand dans les Actes au chapitre 4, verset 8, il nous est dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien. » Vous savez, c'était pas nous, on a des turbulences, parfois on a des... mais là c'était une question aussi de vie ou de mort, hein. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'assurance, il est convaincu, il a un message à communiquer, le message de Jésus crucifié, ressuscité, il l'a à le communiquer et il n'a peur de rien et de personne. Quand il vire l'assurance de Pierre et de Jean, des hommes sans instruction religieuse, ils n'avaient pas fait d'études de théologie de l'époque, comme Paul, ils n'avaient pas fait d'études, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais quel témoignage qu'on puisse nous reconnaître pour avoir fréquenté Jésus le matin, dans la journée. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous avons entre les mains, nous avons dans notre cœur le message le plus puissant que cette terre connaisse. Le message le plus important, il est là. C'est le message de Dieu, le message de l'Évangile. Paul disait, le message de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous l'avons dans notre cœur, frères et sœurs, remplis du Saint-Esprit, nous serons poussés et nous serons dirigés vers les gens qui attendent de recevoir cette parole. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, qui est dans votre entourage, on sera poussé à aller. Et le Seigneur nous dirigera. Un message important, c'est difficile de parler de Jésus dans ce monde. Face aux obstacles, à l'opposition, à la moquerie, c'est difficile. Il faut le reconnaître. Des fois on parle, ah mais ça ne m'intéresse pas. Vous avez essayé de témoigner, parfois il y a des gens réceptifs, mais il y en a, c'est pas évident. Ah non, non. Et parfois on n'a plus envie de témoigner, parce qu'on leur a tellement parlé, à notre entourage, que, bon, parfois il faut s'arrêter de parler, hein. Des fois, on a peut-être trop insisté, il vaut mieux plus prier. Quelqu'un pasteur m'avait dit un jour, il faut beaucoup parler à Jésus de votre entourage, mais il ne faut pas trop leur parler à eux, juste ce qu'il faut, mais il faut beaucoup en parler à Jésus d'eux. Seigneur, sauve-les, touche-les, tu vois l'indifférence, l'incrédulité, Seigneur, touche-les, Seigneur. Des fois, on est découragé, mais je pensais à ce texte de Jérémie au chapitre 20, verset 9, il dit, mais lui aussi a eu un ministère compliqué. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. On n'a plus envie humainement, on est fatigué. Mais le Saint-Esprit nous pousse. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, on a tellement besoin, tellement besoin. Et dans les Actes, au chapitre 7, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout, à la droite de Dieu. Jésus debout. Face à l'épreuve, face même à la mort, le croyant rempli de l'Esprit reste debout. Non seulement Jésus était debout, mais Étienne est resté debout. Il est mort en vainqueur. Il est mort en martyr, mais il est mort en vainqueur. Vous savez pourquoi il est mort en vainqueur? Parce qu'il est mort comme Jésus en pardonnant. Il a pardonné avant de mourir à ceux qui lui lançaient les pierres, qui étaient en train de le lapider. Il a prié pour eux. Il est mort en vainqueur. Et Jésus a été debout. C'est le seul texte où on voit Jésus debout. Jésus debout pour accueillir ce martyr, Étienne. Et quand vous regardez la vie d'Étienne, elle est courte, hein, mais toujours remplie de sagesse, remplie du Saint-Esprit, remplie de foi, plein de foi, plein, remplie. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. C'est ce que Dieu veut pour notre vie, remplie du Saint-Esprit. Ça nous donne aussi de l'autorité. alors que peut-être on est timide, on n'ose pas, ça nous donne de l'autorité. Ça nous donne de l'autorité aussi face au monde des ténèbres. Vous savez qu'il nous faut du discernement aujourd'hui. On met Dieu partout, Jésus est partout. On cite une fois Jésus dans une chanson. Ah, il est chrétien. L'autre, il joue au foot et il a un maillot. Jésus. Voilà, il est chrétien. Et puis, il y a aussi les ténèbres qui se manifestent. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 9, il nous est dit, « Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de la justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Paul, il est rempli d'autorité, il est rempli de... parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une autorité naturelle, c'est une autorité qui a été communiquée par le Saint-Esprit. Vous allez dire, oui, mais c'est un serviteur, mais nous en avons tous besoin. Parce que nous sommes confrontés, les uns et les autres, aux puissances de ténèbres qui sont autour de nous. Ce n'est pas marqué sur le front des personnes. Mais parfois, il y a des gens qui sont vraiment animés par un autre esprit. Que nous puissions... Nous avons besoin, dans tous les domaines de notre vie, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est notre combat, c'est la vie chrétienne normale, c'est pas une exception, c'est pas un summum. On est chrétien, on doit être rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça. Je vous surprends peut-être, bon, mais c'est comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on peut produire de nous-mêmes humainement ? Rien, puisqu'il n'y a rien de bon en nous, rien de bon d'en bas sur la terre. Tout ce qui est bon, tout don parfait, toute grâce excellente, nous descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et on pourrait continuer. Donc on voit celui qui est rempli du Saint-Esprit, les fruits qu'il produit, la vie qu'il a, ce qu'il manifeste. On peut se rendre compte si nous-mêmes on est rempli du Saint-Esprit ou pas. On peut, en voyant ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, comment ils vivaient, quelles étaient leurs ambitions, leurs buts, qu'est-ce qui les poussait de l'avant, est-ce que c'était des choses humaines, est-ce que c'était, ils mettaient toute leur énergie, leur argent, leur temps dans des choses humaines, périssables, que tout disparaîtra. Non, ils travaillaient pour le royaume de Dieu, pour les choses éternelles, ils étaient remplis, ils marchaient sur les traces de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il cherchait ? À obéir à son Père, à faire la volonté du Père, à prêcher la parole, à amener les gens à se repentir. Les apôtres ont suivi, les disciples ont suivi, et nous, il faut qu'on suive. C'est ce qui doit animer notre vie. C'est Dieu, c'est son royaume, c'est sa gloire, c'est les âmes, c'est l'Église. C'est que Dieu soit élevé, glorifié dans son Église. Vous rendez compte si Jésus avait toute autorité, plein pouvoir sur l'Église ? Qu'est-ce qui se passerait ? Mais il veut reprendre la place de la tête. Il est la tête du corps de Christ. Il est le chef. Eh bien, qu'il reprenne sa place, qu'il ne soit ni dehors, ni étranger, voyageur, mais que Jésus prenne la place qu'il aurait toujours dû avoir dans l'Église locale et dans l'Église universelle. Il est la tête, il est le chef, et quand ça vient de lui, c'est bon. Tout est bien fait. Quand ça vient de lui, c'est bon. Et on désire de tout notre cœur que ça vienne de lui. Alors ça démarre où ? Être rempli du Saint-Esprit, ça démarre où ? À quel moment ? Dans notre chambre. C'est là. Dans le lieu secret. C'est là ou c'est pas. Ça démarre là. Il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut se tenir devant le Seigneur. Il faut chercher sa face. Il faut que Dieu puisse avoir accès sur notre cœur et notre vie. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous amener à être convaincus de péché. Mais je suis chrétien, justement. Ce n'est pas pour se convertir. C'est pour que Dieu puisse nous remplir. Et pour nous remplir, il faut être vide. De nous-mêmes, on l'a chanté. Ce qui m'était gain, n'a plus de valeur. On le chante. Mais est-ce qu'on le vit? Il faut que nous puissions vivre ces choses, frères et sœurs. On effleure juste là un petit peu quelques aspects, mais il faut qu'on puisse désirer ardemment, dire « mais je veux être un chrétien selon le Nouveau Testament, je veux être un chrétien comme Dieu l'a prévu, on veut que notre Église soit une Église selon le modèle biblique, afin que le Seigneur puisse se manifester comme il l'a promis. » Et je suis sûr qu'on prend le chemin. J'en suis convaincu. Ici, je me sens comme à la maison, comme à Aubagne. Voilà, bon, Gérard, quand il vient aussi, voilà, c'est ce qui est spirituel. La vie passe vite, les années passent vite. Me dit, on se retrouve là, on est pas loin de la retraite administrative, bien sûr. On n'est jamais à la retraite en servant le Seigneur, mais ça passe vite. Il faut. On veut donner notre vie pour quelque chose qui vaut la peine. On veut voir le Seigneur se manifester dans les années qui sont là. On a trop eu de crainte, on a trop se conformé à ce qu'on nous dit d'être, de faire. On n'a pas à se conformer à ce que les hommes nous disent, mais on veut se conformer à ce que Dieu nous dit, afin qu'il puisse agir avec puissance. Alors, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je crois que j'avais cité déjà ce verset dans un camp, mais Paul prend à dessein ce « ne vous enivrez pas de vin ». Le vin de ce monde, la pensée de ce monde, pensée de la chair, ces choses qui la convoitisent, toutes ces choses qui nous tentent, qui nous poussent, qui nous attirent, ne vous enivrez pas de ce vin-là. Et vous savez, le Saint-Esprit dans notre cœur personnel, et si vous faites une étude de cela, prenez à partir du verset 21, à partir du verset 17 et jusqu'à la fin du chapitre d'Éphésiens 5, jusqu'à la fin du chapitre 6, vous voyez qu'une vie remplie du Saint-Esprit, ce qu'elle produit. Entretenez-vous par des hymnes, etc. Le rapport époux-épouse, et il y a également parent-enfant, patron-ouvrier, et il y a le combat dans la prière. Bon, on effleure juste, mais faites-le, voilà, rempli, soyez rempli du Saint-Esprit. Voilà les conséquences dans cette vie qui vont émaner d'une vie remplie du Saint-Esprit. Ça va être béni dans ces domaines-là, et dans le domaine de la prière, comme il y en a besoin. Donc le vin. Il prend cet exemple, le vin, quelqu'un qui a trop bu, il a sa vie, ses sens, ses pensées, ses réflexes, tout est modifié. Parce que c'est le vin, et plus il va boire, plus tout va être altéré. Ça va atteindre toute sa vie, sa réflexion, sa pensée, tout va être modifié. Ils vont dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit normalement, ils vont faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites. Une vie remplie de vin. Mais Paul dit, au contraire, l'influence que l'alcool aura sur une vie, voilà, le Saint-Esprit aura cette influence. Une vie remplie du Saint-Esprit influencera nos pensées, notre cœur, nos choix, notre vie tout entière. Une vie remplie du Saint-Esprit. Voilà ce qu'elle va influencer. Ce n'est pas un baptême du Saint-Esprit, puis je continue à vivre comme je peux, du mieux que je peux, et puis je demande à Dieu de m'aider, de me bénir. Non, c'est demander à Jésus de prendre toute la place et de nous conduire. Et de nous conduire. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Pas sur le salut, si vous êtes sauvés, mais sur la vie chrétienne. Est-ce que je vis comme Dieu veut que je vive ? Il faut pouvoir s'examiner avec les Écritures, laisser au Saint-Esprit le soin de nous convaincre. Parce que tant qu'on n'est pas convaincu, on ne change pas. Vous savez, quelqu'un a dit, mais ça c'est pas dans la Bible, hein, quelqu'un a dit que pour changer une habitude, vous savez combien il faut de temps? Je vais vous le dire, mais ça c'est dans le monde, mais quand même ça donne combien de temps il faut pour changer une habitude qu'on a depuis longtemps? 20 ans. On est tellement, quand on est dans des habitudes, très difficile de changer. Mais que nous puissions nous tenir devant le Seigneur et que le Saint-Esprit nous convainque. On dit, Seigneur, ça y est, c'est toi, aide-moi. Moi, je veux obéir. Je veux obéir. Acte 5, 32, vous le connaissez par cœur? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Vous savez que si on n'obéit pas, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, ceux qui veulent marcher, ceux qui sont déterminés, ceux qui disent « moi je vais prier, je vais me tenir dans la chambre, je priais autrefois 5 minutes juste pour la journée, pour que Dieu protège et bénisse, je vais prendre du temps, le dégager, dire « voilà Seigneur, je ne te donne pas 5 minutes avant d'aller travailler, mais je me lève plus tôt et je me tiens devant toi, parle-moi, parle-moi ». Et pendant que le Saint-Esprit agit, vous savez qu'il peut changer nos caractères. Il veut nous changer. Et le témoignage autour, dire « mais attends, mais mon mari, il a changé. Quel témoignage ? Mon épouse, elle a changé. » Plus à même, il s'est passé quelque chose. C'est Dieu qui est passé par là. Sinon, on va rester les mêmes, on va faire les mêmes choses, on va rester même à la même place, c'est pas interdit hein, d'être... Mais on va toujours faire les mêmes choses, s'attendre à rien, on vient, réunion de prière, eh ben, ça va se dérouler comme ça, voilà, bon, ben, ça finit à telle heure. Est-ce qu'on ne peut pas changer dans le disque dur et dire, Seigneur, c'est toi qui es aux commandes, c'est pas à moi de dire, voilà, Seigneur, tu as 5 minutes pour parler, tu as... et puis là, c'est la fin. Donc, c'est fini. Et si le Saint-Esprit nous visite, même si c'est la fin de la réunion, ça ne vaut pas la peine de rester et de dire, Seigneur, je ne te laisserai aller ce soir que tu ne m'aies béni, ou ce matin. Alors, on a effleuré un petit peu ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. En tous les cas, Dieu veut nous remplir. Il dit, combien vous qui êtes... méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit qu'il a promis. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Sinon, nous sommes comme cette armée d'Ézéchiel, nous sommes debout. Et voilà, on n'avance pas. De loin, on va dire, waouh, quelle armée. On s'approche, on dit, mais ils ne bougent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont droits, ils ont tout. Hein. La chair, les nerfs, la peau, ils ont tout. Mais ils ne bougent pas. Prophétise à l'esprit. Et l'armée s'est mise en mouvement. C'est l'Église. Le jour de la Pentecôte, je vais terminer, mais le jour de la Pentecôte, l'Église s'est mise en mouvement. Elle avait été prophétisée dans Matthieu 16. Elle a commencé, il y avait un embryon dans les évangiles, mais acte 2, elle a été propulsée. Rien n'a pu l'arrêter. Rien. Ni les prisons, ni la persécution. Rien n'a pu arrêter l'Église de Jésus-Christ qui était en marche par la puissance du Saint-Esprit. Rien n'a pu l'arrêter. C'est cette Église-là qu'on puisse dire, il y a une Église où Dieu agit, à Toulouse. Voilà, on sait que Dieu se manifeste dans cette Église et que le pécheur qui rentre, pensées de son cœur sont dévoilées et il dira, il publiera, Dieu est réellement au milieu d'eux. Laissons à Dieu, j'allais dire, l'occasion de pouvoir modifier nos pensées sur l'Église, sur la vie chrétienne, sur ce qu'est être rempli du Saint-Esprit, revenir au texte, dire « mais c'est écrit comme ça, mais moi je ne vis pas du tout comme ça. Seigneur, c'est à moi de revenir là. Je vais te chercher jusqu'à ce que tu puisses me toucher, m'atteindre, me convaincre et me délivrer. » Afin que je puisse, et rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours. C'est notre combat, on n'est pas rempli une fois pour toutes, mais c'est tous les jours. Soyez continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Et je termine avec juste, notre pays ira mieux quand les églises iront mieux. Nos églises iront mieux quand chacun de nous ira mieux spirituellement. Et nous irons mieux spirituellement quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu pourra nous remplir. Il n'y a pas d'autre. On peut réfléchir 10 ans, 20 ans sur intellectuellement, mais on a besoin de quelque chose qui vienne d'en haut. Quelque chose qui vienne d'en haut. La croix, Jésus a tout accompli à la croix. Mais pour que l'œuvre puissante de la croix vienne dans notre cœur, il nous faut que le Saint-Esprit applique ces choses dans notre vie. Et Paul dira, je porte les marques de Jésus. sur mon corps. C'était en lui. C'était pas là. C'était pas une réunion comme ça, un culte, une réunion de prière. C'était sa vie. Christ est ma vie.